Dans l'auberge espagnole, à présent, c'est Pierre-Louis Chevalier qui nous a rejoint. Bonjour Pierre-Louis.
Bonjour tout le monde, bonjour Gilles.
Alors tu es venu avec Doris Aaron Casco. Bonjour Doris.
Bonjour.
Alors, on peut te présenter comme journaliste, cinéaste, photoreporter ?
Bah, comme cinéaste et photographe, oui.
Ouais. Alors, tu es ivoirien, tu es de retour d'un séjour en Côte d'Ivoire pour reportage. Tu es né en 66 à Dalloa, en Côte d'Ivoire. Tu as utilisé la photographie, notamment pour présenter en octobre 93 une exposition intitulée « Ils sont fous, on s'en fout » à Abidjan. Trois années durant, tu as photographié des personnes malades mentales, laissées pour compte dans la capitale. En 94, aux éditions Revue Noire, tu as publié 52 de ces photographies dans un ouvrage à présent épuisé, mais on peut toujours trouver des tirages en vente sur le site des éditions Revue Noire. Tu as exposé ton travail en 2004 à l'ECM Kawenga quand il était au-dessus du Diago Centre, et en 2005 à l'École des Beaux-Arts. Et puis là, tu reviens de Côte d'Ivoire où tu ne t'étais pas rendu depuis une dizaine d'années, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien cela, ouais. Mm-hmm. Ouais, je viens d'un petit séjour d'un mois, cinq jours.
Tu y étais donc pendant les fêtes de fin d'année.
Oui, voilà, ouais.
Voilà. Et donc, Pierre-Louis te connaît et puis nous a dit il faut absolument l'inviter, etc. Parce que c'est vrai que, évidemment, comme d'habitude, hein, dès que ça barde, qu'il y a des conflits, etc., on en parle au JT de 20h. Et puis, quand les gens doivent reconstruire, hein, puisque tu es là aussi pour témoigner de l'engouement de la population pour cette reconstruction, on n'en parle plus, bizarrement.
Oui. Hein. Et justement, ce qui est positif dans ce que tu me disais, Doris, hein, à ton retour, c'est ce désir de la population, hein, d'oublier ces années de guerre civile, hein, d'opposition, de risque de scission du pays, et ce désir d'aller de l'avant que tu as éprouvé.
Oui, effectivement, quand je retournais en Côte d'Ivoire, donc après ces 10 années d'absence, j'avais énormément d'appréhension. Vu que le pays était en guerre depuis tout ce temps, et les images que l'on voit ici, à travers les médias, qui sont des fois sous-exposés ou surexposés, on ne sait pas comment trouver le juste. Donc j'ai décidé de faire un constat par moi-même. Donc le retour, quand cela m'a été possible, donc je l'ai fait au mois de décembre cette année. Et en y arrivant, toutes mes appréhensions ont été dissipées très rapidement face à l'engouement auquel j'ai été confronté émanant de la population à vouloir terminer avec ces années de léthargie et de guerre que personne n'a voulu, au fond. Voilà. Et donc on voit cette volonté aujourd'hui où les gens veulent reconstruire, faire des choses, aller de l'avant, et puis cet épuisement duquel ils sortaient. Et donc alors les périodes de fête étaient là aussi pour montrer que les gens avaient un autre souffle de vie et retrouvaient une autre Côte d'Ivoire en dehors de celle qui a énormément souffert sous cette espèce de gangrène d'ivoirité qui a entraîné tout ça, quoi, au fond.
Alors justement, tu utilises le terme d'ivoirité. Je pense que pour les éditeurs, ça sera intéressant de repartir peut-être rapidement la présidence de Fouet-Boigny, hein, qui était considéré comme un des sages de l'Afrique. Hein, je ne sais pas s'il méritait ce qualificatif. Donc lui, il est président après avoir été parlementaire, ministre sous la 4e République. Il est président de 60 à 93, l'année de sa mort.
Ouais,
et ensuite, eh bien, on va dire tous les mots, on va dire les mots du pays, les mots politiques, la désunion, procèdent après sa mort. Alors, tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé à la mort de Fouet.
Oui, quand il y a eu l'indépendance de ce pays-là, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart donc des colonies françaises, en 1960, où Fouet-Boigny a été le premier président de la Côte d'Ivoire, donc sur un régime de parti unique, hein, pendant tout son règne jusqu'en fin de vie, où pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a eu un premier ministre en la personne d'Alassane Ouattara, quand il y a eu la possibilité du multipartisme, etc. Et donc Alassane Ouattara, qui assumait le poste de premier ministre sous le gouvernement de Fouet-Boigny. Et quand celui-ci est décédé, il y avait donc dans la constitution ivoirienne un fameux article 11 qui disait qu'en cas de vacances prolongées du président de la République, le président de l'Assemblée nationale est habilité à prendre les rênes, la succession, en fait. l'intérim. Et en ce moment-là, se trouvait donc être président de l'Assemblée nationale, Henri Konabédié.
Qui était premier ministre qui avait été...
Non, il n'y avait pas eu de premier ministre avant Alassane Ouattara dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était le premier et seul premier ministre pendant Houphouët Boigny. Et donc, Bédié était par contre président de l'Assemblée nationale. Donc, de par la constitution ivoirienne, le fameux article 11, il était habilité à être le président intérimaire à la mort de Houphouët Boigny. Et donc, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait quand même une espèce d'adversité comme ça entre lui et Alassane Ouattara, qui ne voulait pas du tout voir se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, un changement de la constitution où, désormais en Côte d'Ivoire, décidé par Henri Konabédié, désormais en Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidence ivoirienne, il faut être de père et mère ivoirien, de grand-père et grand-mère ivoirien, etc. Donc ça, c'est un truc qui a été franchement taillé sur mesure contre la personne d'Alassane Ouattara. Parce que, à vrai dire, tous de cette génération-là, étant donné que l'indépendance du pays a été en 1960, avant la notion de colonie, on voit bien comment c'était, quoi, la frontière et
bien
tout.
Bien sûr, les frontières. Hein,
Haute Volta, Burkina Faso, oui. Actuelle, la Côte d'Ivoire, Mali, etc. Franchement, quand on regarde même la carte de l'Afrique, apprendre la chose en bloc, elle est très très belle. Mais quand on rentre dans les détails, il n'y a pas plus immonde que les frontières africaines quand on les regarde.
Alors, on voit tout de suite sur un planisphère, en Europe, si on regarde la carte européenne, la carte politique, il n'y a aucun pays qui ait des frontières tirées avec une règle.
Mais là, il y a des traits, mais hyper nets, et on ne peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, c'est, et donc, on trouve un Burkina Faso, une Côte d'Ivoire qui sont frontaliers, où les parents, effectivement, forcément, on va en trouver encore des gens qui se retrouvent de l'autre côté, etc. Donc, tout ça était un faux problème, en fait, pour empêcher... une personne d'être candidat à la présidence.
Donc on fait appel au droit du sang. Oui. Hein, ça rappelle, hélas, ce qui se passe aussi dans notre pays, hein, le droit du sang qui a primé sur le droit du sol.
Ben ouais, non, mais ça a été un énorme problème pour la Côte d'Ivoire parce que du coup, toute la population du Nord, étant donné qu'Alassane Ouattara est issu du Nord de la Côte d'Ivoire, toute la population du Nord s'est ressentie, rejetée, par cette situation de qu'Alassane Ouattara n'est plus ivoirien, il serait burkinabé ou malien, etc., surtout burkinabé. Les autres se sont sentis aussi frustrés par cette... il y a eu la rébellion à un moment qui s'est créée et le pays s'est retrouvé divisé en deux, quoi.
Donc c'est cette loi sur mesure, cette modification de la Constitution qui a été faite pour un intérêt particulier, on va dire, qui finalement a démarré tous les ennuis qui se sont soldés par les événements de l'année dernière.
Ouais, bien sûr, parce que tout ça était parti de là, et donc le président Henri Konabédié a subi un coup d'État en décembre 99, où il a été renversé par les militaires. Donc c'était d'ailleurs des très jeunes militaires, un caporal qui dirigeait l'opération, hein, et donc qui a confié l'outil au général Guéï, à l'époque, qui lui avait promis à la population de balayer la maison, comme il savait bien le dire, et redonner le pouvoir aux civils. Mais enfin, finalement, il a pris goût, il s'est présenté lui-même aussi comme candidat à la présidence, etc. Et chose qui n'a pas marché pour lui, Babo s'est retrouvé dans des conditions jusque-là qui n'ont pas été claires pour tout le monde non plus à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et depuis 10 ans, à gérer les affaires du pays, quoi, qui s'est retrouvé divisé en deux quand même, quoi.
Alors ce président Gbagbo qui avait des grandes amitiés avec, on va dire, les socialistes français, hein. Je pense qu'il y avait des relations privilégiées avec, on va dire, plutôt avec le groupe socialiste. Et aujourd'hui, ce président Gbagbo, il se retrouve traduit devant le tribunal pénal international de La Haye et impliqué pour crime de guerre. Alors, quelle est la situation
Crime de guerre, crime contre l'humanité, parce que dans cette guerre-là, il y a eu, beaucoup de morts quand même, je veux dire, c'est, Et qu'il ait des amis socialistes, c'est quelque chose qui semble d'ailleurs normal, parce que vu la position qu'il prenait lui-même politiquement aussi, et puis bon, voilà, donc c'est en famille que ça se passe, hein, aussi, comme ils le disent, famille socialiste, ou famille de gauche, ou de droite, etc. Mais enfin, le problème, aujourd'hui, les partisans de Babo vont continuer à accuser la France d'avoir inversé le régime de leur mentor, etc. Mais enfin, c'est des choses courantes, quoi. Mais moi, j'enregistre tout simplement que, en fait, l'adversaire principal de l'individu n'est pas le groupe des prédateurs qui lui courent après, en fait, au bout d'un certain moment. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien à un gnou qui est poursuivi par une horde de lions de courir plus vite que le lion. Chose qui lui est impossible. Mais il lui suffit tout simplement de courir plus vite que quelqu'un de son espèce.
Que les autres gnous.
Voilà, que les autres gnous. Ou d'autres espèces qui lui sont apparentées. C'est ça. Donc l'adversité se retrouve entre des gens qui sont eux-mêmes dans leur propre... Mais on continue quand même de dire qu'il y a un prédateur derrière. Un prédateur derrière, mais en fait, c'est...
Pour se sauver du prédateur, on s'entretue entre même espèce.
Voilà, exactement. Donc du coup, on ne sait même plus est-ce que le prédateur existe réellement ou alors il est fabriqué pour dire que... Donc, voilà. Toujours est-il que les Ivoiriens ont été fatigués de cette histoire.
La lutte pour le pouvoir, elle primait les convictions, on va dire, idéologiques qu'il y avait.
Bah oui, moi personnellement, ce que j'ai pas compris quand il y avait ce régime-là, Babo, et que le pays était divisé en deux, j'ai pas du principe que qui peut le plus peut le moins. Peut-être que le contraire est moins évident. Alors, un pays qui représente 322 000 en superficie de kilomètres carrés, qui est divisé en deux, qu'on ne puisse pas, pendant 10 ans, faire quelque chose de remarquable, de visible dans la petite partie qu'on est censé maîtriser, sous prétexte que on nous empêche de bosser parce qu'il y a cette division, cette rébellion. Ça, personnellement, je l'ai pas bien compris. Alors, en retour en Côte d'Ivoire, au mois de décembre, pour ce que j'ai vu, les travaux qui ont repris, un nouveau spectacle aujourd'hui pour les Ivoiriens. Ils sortent dès qu'il fait nuit et se mettent devant leur maison et puis regardent un nouvel événement, un spectacle, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Pour refaire les routes, etc.
Les routes, etc. Ça, c'était du jamais vu. Je veux dire, c'est, voilà. Donc,
et spontanément ou sous une injonction gouvernementale ?
Gouvernementale, bien sûr, ouais, parce que bon, voilà, c'est une injonction gouvernementale. Donc, quand on veut, on peut aussi, quoi. Je veux dire, c'est voilà.
Alors, il y a aussi une situation économique toute particulière. Alors, comme dans beaucoup de pays d'Afrique qui ont été colonisés ou qu'ils sont encore. Sous d'autres formes, en quelque sorte, c'est vrai que la France a particulièrement pas mal d'intérêts en Côte d'Ivoire, mais y a beaucoup de ressources, ça aiguise aussi l'intérêt, en tout cas, d'autres nations. On sait que Hillary Clinton est passée aussi il n'y a pas longtemps, etc. Est-ce que justement les Ivoiriens sont mûrs pour finalement arriver maintenant à, entre guillemets, imposer leurs conditions à ceux qui veulent installer leurs entreprises sur place? On connaît l'agressivité des entreprises de BTP chinoises sur le sol africain, qui n'embauchent même plus les Africains. Ils font venir les petits Chinois qui tiennent dans les boîtes de sardines. Ils sortent le fouet et puis ils font bosser leurs propres esclaves. Est-ce que la Côte d'Ivoire est mûre pour dire à ces pays, la France, les États-Unis ou que sais-je, écoutez, c'est nos ressources, donc c'est nous qui allons fixer les conditions pour que vous puissiez marger sur ces ressources-là.
Alors, je pense que la maturité ivoirienne n'est pas mise en cause dans sa situation économique actuelle. Il faut voir aussi qu'il y a une genèse à tout ça. Et la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui a toujours été un pays de convoitise. Sa richesse principale est due au café et cacao, donc ce qui lui a permis d'ailleurs de détenir le rang du premier producteur de café et cacao au monde. Et il y a des gisements de pétrole qui sont découverts. C'est un pays où il y a du diamant, de l'or, etc. Le sous-sol est hyper riche. Et quand on voit effectivement un endroit comme ça attire la convoitise des autres. Bon, faut ouvrir les yeux, faut voir bien quels sont les intérêts occidentaux, notamment français, qui sont installés. Je veux dire, on peut parler de la souveraineté d'un pays, mais on peut difficilement la défendre en tant que telle quand même son eau et son électricité ne lui appartiennent pas. Mmh. Dire, quand on voit comment Bouygues, Bolloré, et tout, des Shell, etc., sont tous implantés là-bas, il y a des fois aussi on se pose la question à savoir effectivement est-ce que voilà les guerres sont saines, est-ce que qu'est-ce qui est recherché, est-ce que on va être là en tant qu'armée française pour protéger vraiment la population ou protéger juste les intérêts économiques de l'Occident. Mm-hmm. Parce que la population elle a énormément souffert dans cette guerre. Mm-hmm. Ça on voit. Et la protection elle n'en avait pas tant que ça. Hein. Bon aujourd'hui ça s'est calmé, mais les activités, les grands axes où les intérêts sont, il n'y en a aucun qui a été touché. Je veux dire, c'est bon, il y a encore la présence des forces licornes là-bas.
Ouais. Le président Sarkozy a dit d'ailleurs qu'il maintiendrait une présence militaire française.
Il maintiendrait, renforcerait d'ailleurs. Ouattara est venu en faire demande ici il n'y a pas très longtemps.
Oui, et puis, je veux dire,
c'est bon, ce côté-là, on ne sait pas. Bon, il y a quand même un petit, une équation importante aujourd'hui, malgré que le conflit se soit calmé. En Côte d'Ivoire, il y a une équation importante à résoudre, c'est celle de cette armée-là, dont on ne sait pas trop là-dedans qui est réellement qui. Mmh. Il y a énormément d'armes qui traînent. Moi, je fais le constat que les policiers qu'on voit dans la rue mais sont moins armés que les gens qu'on retrouve de l'autre côté en face qui seraient des ex-combattants, etc., qui se promènent avec des kalachnikovs, quoi, face à un flic qui légitimé, qui a un Beretta.
Là, tu évoques les ex-rebelles du Nord de Guillaume Soro.
Bah, parce que de part et d'autre, il y a eu des recrutements. Des rebelles, des mercenaires, etc. Il y a eu des recrutements. Je dis, ils ont enrôlé des gens aussi, des part et d'autre. Quand on va libérer la MACA, qui est la prison civile d'Abidjan, surpeuplée comme ça ne devrait pas être, et qu'on arme les gens pour leur dire, bon, bah, allez-y, attaquez par-ci et par-là. Je dis,
juste pour terminer, car le temps se termine, est-ce que tu penses que la personnalité de Alassane Ouattara et puis son expérience précédente en tant que Premier ministre, avec les événements qu'il y a eu entre les deux, etc., vont faire de lui finalement l'homme sage dont le pays a besoin?
Mais je crois que c'est ce que tout le monde attend de lui. C'est ce que tout le monde attend de lui. Les gens comptent énormément sur son expérience et puis sa bonne foi qui dit avoir, qui a toujours essayé de manifester. Les gens comptent énormément là-dessus, ça, pour que les choses soient autrement.
Il me semble que c'était un haut fonctionnaire de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire.
Oui, Fonds monétaire international et puis qui a été...
Voilà. faut voir. Le FMI, on ne sait pas trop.
On ne sait pas trop, non.
En tout cas, Doris, merci beaucoup de nous avoir... d'avoir partagé avec nous ces quelques impressions. On te re-recevra pour parler peut-être de ton actualité en tant qu'artiste. Tu es à Montpellier, donc ce sera assez facile de te re-recevoir. Et puis on va écouter très très brièvement une petite pause musicale. Il s'agit de Dobet Niaoré. Merci encore. À bientôt sur les ondes de Divergence.
Merci.
Salut Pierre-Louis.
Merci.